Ce soir, c'est la légende du petit dragon ou l'histoire d'un gamin de Hong Kong devenu le roi du Kung-Fu. C'est l'histoire d'une icône planétaire qui a forgé son mythe à travers la maîtrise martiale de son corps et de son esprit. Ce soir, c'est l'histoire de Bruce Lee, athlète hors norme et héros de tous les opprimés. Ce soir, je suis le frelon vert, tu es le roi du Nunchaku. Ce soir, tu as l'œil du tigre et moi, j'ai la fureur de vaincre. Ce week-end, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, se tiennent les championnats de France de Kung-Fu, un sport chinois longtemps entravé par les années Mao parce que traditionnel et qui a fait son apparition en Occident seulement au début des années 70 grâce à un homme qui a réinventé les arts martiaux chinois, c'est l'œuvre du petit dragon. Et alors ce soir, pour nous raconter ce destin, celui de Bruce Lee, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, il est directeur de l'action culturelle de la Cinémathèque française et auteur d'un essai passionnant sur Bruce Lee. Bernard Benoniel, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, Bernard. Et puis à vos côtés, il est expert en arts martiaux chinois, plusieurs fois champion de France et champion d'Europe de Kung-Fu. Roger Etier, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez-vous aussi le bienvenu.
Merci.
Et puis ce soir, on va aussi vous raconter l'histoire du rugby parisien. C'est l'actu de la semaine et c'est le dossier du professeur Mauduit. Et bien sûr, par ailleurs, juste avant 19h, le Give Me Five de Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Au programme ce soir,
eh bien, des héros en pleine force de l'âge. Comme nos auditeurs.
Parfaitement. Et enfin, pour être tout à fait complet, à 19h15, tous les résultats du week-end dans le journal des sports de Michel Gourdin. Voilà, vous savez tout. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
Philippe Collin, l'œil du tigre sur France Inter.
Alors, cette semaine, on commence avec le rugby parisien où rien ne va plus. Lundi dernier, à la surprise générale, le président du Stade français et celui du Racing 92 ont annoncé la fusion des deux clubs. La nouvelle a foutu un gros dawa. Les joueurs du Stade français avaient déposé un préavis de grève illimité et refusé d'être absorbés par le Racing 92. Et il semble bien que depuis ce matin, la fusion n'aura pas lieu. En tout cas, c'est l'occasion de revenir sur l'origine de ces deux clubs parisiens. C'est la story ce soir du professeur Mauduit. Salut Mauduit.
Salut Colin, bonsoir à tous. Racing Club et Stade Français, une histoire de frères rivaux, une histoire de frères jumeaux, une histoire de rugby faite de mêlées, d'essais transformés et de démêlées qu'il faut essayer de démêler. Allez, lisons le journal, le Figaro, le 19 juin 1882. Tous et tout au sport, jusqu'aux lycéens qui s'en mêlent. C'est ainsi que la brillante jeunesse de Fontane vient de fonder le Racing Club. Oui, en 1882, le lycée Fontane est l'un des plus prestigieux de Paris. Nous le connaissons aujourd'hui sous un autre nom, le lycée Condorcet. Les enfants de la bonne société qui l'accueille aiment le sport. Mais le quartier de la gare Saint-Lazare n'est pas des plus propices à l'activité physique. Alors ils se réunissent au Bois de Boulogne et fondent, en 1882 donc, le Racing Club. Une association multisport avec beaucoup de courses à pied mais aussi du tir au pigeon, bah oui. Tous nos compliments aux fondateurs du Racing Club, c'est une bonne idée à condition que les coureurs ne se casseront pas les jambes. Voilà ce qu'on lit dans le Figaro. Ce qu'ignorent encore ces jeunes sportifs, c'est qu'un autre club va bien vite venir leur casser les pieds. Un an après la création du Racing Club, d'autres lycéens fondent le Stade français. Oui, en 1883, des gamins du quartier latin, élèves au lycée Louis-le-Grand, se réunissent au Procope, café historique du quartier de l'Odéon. Ils y boivent des coups et créent une association sportive. Dans le quotidien La Presse, le 5 décembre 1884, elle est présentée comme une imitation du Racing Club. Le Stade français est une société de course à pied qui se réunit deux fois par semaine sur la terrasse de l'orangerie des Tuileries. Ainsi, à l'origine, ces deux clubs proposent plusieurs sports, parmi lesquels il y a le rugby-football. Oui, un étrange sport qui se joue avec un ballon à la forme rigolote et qu'on peut attraper avec les mains, c'est très bizarre. Quand les deux clubs parisiens sont fondés dans les années 1880, le rugby est un sport très marginal. Bon, il y avait bien eu à Paris un football club quelques années plus tôt, mais il a disparu. Pour ceux qui veulent pratiquer le rugby, il y a désormais le choix, c'est-à-dire deux clubs où, soyons honnêtes, on pratique surtout la course à pied. Nous voici maintenant en 1892. Le Racing a 10 ans et le Stade français, son cadet, en a 9. Pour les deux clubs, 1892 est une grande année. Ils participent au premier championnat de France de rugby, plus exactement au premier championnat interclub pour des associations non scolaires. Il est nécessaire de nous arrêter quelques instants sur cet événement fondateur. Parce que disons qu'il est assez particulier. Oui, il n'y a que deux équipes en compétition. Et un championnat avec seulement deux clubs, ça se réduit à un match qui se joue le 20 mars 1892 sur la pelouse de Batignolles au Bois de Boulogne. Pour ce premier championnat, les deux équipes qui s'affrontent, c'est le Racing Club et le Stade français. Impossible de se tromper, le gagnant sera parisien. Pourtant, ce match n'est pas qu'une gentille bagatelle. Le public est nombreux et la presse fait écho de l'événement. Il faut dire que l'arbitre est le baron Pierre de Coubertin. C'est le Racing qui gagne, 4 points à 3. Le petit journal constate alors que, de l'avis des amateurs présents, parmi lesquels beaucoup d'anglais, la partie a été la plus intéressante qui ait été jouée en France jusqu'à ce jour. L'histoire et la rivalité des deux clubs s'expriment désormais avec un ballon ovale. Le Racing Club et le Stade français. Raconter leur histoire d'amitié et de rivalité serait retracer l'histoire du rugby français. La finale du championnat de 1892, remportée par le Racing, est suivie l'année suivante d'une nouvelle finale entre les deux clubs. Cette fois, c'est le Stade français qui gagne. Ces Parisiens qui dominent les premières années du rugby sont peu à peu rejoints par d'autres clubs, l'Olympique, le Stade bordelais, le Toulousain. Depuis, le Racing Club de France est devenu le Racing Métro, puis le Racing 92, toujours aux couleurs bleu ciel et blanc. Le Stade français, quant à lui, a vu ses maillots se couvrir d'un charmant rose bonbon. Aujourd'hui, espérons que l'avenir reste rose et que le bleu du ciel ne s'assombrisse pas.
Affaire à suivre, même si visiblement donc, et c'est tant mieux, la fusion n'aura pas lieu entre ces deux clubs de rugby parisiens. Merci Mauduit et à la semaine prochaine, nous, on va causer Kung Fu. La fureur de vaincre, la fureur du dragon et Opération Dragon. Il aura suffi de 3 films en 3 ans pour qu'il devienne un mythe planétaire à tel point que son nom pourrait être celui de son héros, ou l'inverse, un peu comme Charlot et Chaplin. Bruce Lee est à la frontière du réel. Est-ce le nom d'un personnage légendaire du Kung-Fu, Bruce Lee, ou est-ce le nom d'un gamin, le nom réel d'ailleurs, qui aurait transcendé son destin? Parfois on ne sait plus trop, alors il faut se souvenir d'où il vient.
À une journaliste qui lui demandait quelles étaient les limites qu'il entrevoyait à sa carrière, Bruce Lee répondit un jour « les limites du ciel ouvert ». Débarqué en 1958 à Los Angeles, avec $100 en poche, ce petit émigrant de Hong Kong est devenu en 12 ans l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, une vedette dont les films rapportent plus de dollars que ceux de Clint Eastwood et John Wayne réunis. On peut dire que Bruce Lee a littéralement révolutionné le Kung-Fu. En apparaissant à l'écran, Bruce Lee disait à ses compatriotes « Vous, Chinois, vous pouvez faire aussi bien que tout le monde et je vous le montre pour que vous puissiez y croire. » Parlant au nom de son peuple, Bruce Lee devint ainsi, avec 2 films, le symbole des opprimés et, par contre-coup, celle de tous les immigrés.
Bruce Lee, icône de la pop culture, Bruce Lee, maître du kung-fu, Bruce Lee, héros des opprimés. Bernard Benoliel, vous êtes l'auteur d'un essai passionnant consacré à Bruce Lee. Juste pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéressait chez Bruce Lee?
Deux choses. D'abord, faire revenir une émotion d'enfance. Puisque moi j'ai découvert Opération Dragon, je pense, à l'âge de 10 ans par un heureux hasard, et que la vision du film m'a littéralement sidéré. Et donc après, quand j'ai commencé plus tard, adulte ou jeune adulte, à écrire sur le cinéma, j'avais cette ambition de joindre ce souvenir, cette émotion à l'écriture. Et je voulais en quelque sorte, si je puis dire, rapatrier Bruce Lee dans le champ des études cinématographiques. C'est-à-dire ne pas seulement le considérer comme un... souvent comme il est considéré comme un phénomène de foire, mais vraiment comme un acteur phénoménal et quelqu'un qui était un créateur de forme. Et c'est à ce titre-là que j'ai regardé ses films, comme on regarde les films d'auteur, comme on regarde les films auxquels, d'ordinaire, on accorde du crédit.
Et résultat, ça donne un livre passionnant, Bernard, bravo. Roger Itier, vous êtes expert en arts martiaux chinois, vous êtes plusieurs fois champion de France et champion d'Europe de Kung Fu. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Bruce Lee? C'est un mythe dans les arts martiaux.
Oui, Bruce Lee, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Bruce Lee, ça c'est indéniable. Les arts martiaux sont devenus populaires à l'échelle mondiale grâce à lui et grâce effectivement, comme le disait Bernard, à l'ensemble de ses films. Bruce Lee, ça a été une comète, comme James Dean, d'ailleurs on compare souvent à James Dean, je crois même qu'il en était admirateur.
Absolument.
Et en quelques films, 3-4 films, il est devenu une vraie comète qui a transformé et bouleversé en fait le monde des arts martiaux et une vision des arts martiaux. C'était un précurseur. Et par exemple, l'engouement qu'on a du combat mixte maintenant, c'est les premières images d'Opération Dragon.
Mmh, absolument, c'est très vrai ça d'ailleurs. Quand on revoit le film, on se dit tiens, en fait, c'est très contemporain.
Sauf que ça a plus de 40 ans.
Et oui, tout à fait. Reprenons depuis le début. Bruce Lee est né à San Francisco, à l'hôpital chinois en 1940. C'est le fils d'un comédien de l'opéra chinois installé aux États-Unis. Mais très vite, la famille va revenir à Hong Kong. Il a 3 ans, je crois, Bruce Lee à l'époque. Et ce qu'on ne sait pas assez, Bernard Benoniel, c'est qu'il y a une carrière au cinéma enfant et adolescent de Bruce Lee. Il a beaucoup tourné en Chine avec son père pour commencer.
Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est très important de rappeler que, à la fois par presque un effet du hasard, mais qui va être un hasard qui va déterminer sa vie, Bruce Lee est un Chinois de Hong Kong, mais né à San Francisco. Et quand très jeune, nourrisson, il retourne à Hong Kong, effectivement, il va y rester jusqu'en 1959. Et là, dans ses années d'enfance et de jeunesse, il va faire plusieurs choses, mais entre autres, devenir acteur enfant. Dans le cinéma cantonais de Hong Kong, il va tourner quelques, je crois, 23 films.
Je crois qu'il y a plus de 20 films, en effet.
Voilà,
ouais.
Il y a plus de 20 films à son actif pour cet acteur enfant et adolescent, entre, disons, 48 et 59. Et donc, c'est un cinéma où il joue, évidemment, un enfant ou un jeune garçon un peu révolté. Les films, c'est, disons, entre... The Kid de Chaplin et The Orphan, donc qui comme on le disait, lande du côté de James Dean, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il grandit, il incarne un petit peu une jeunesse difficile, une jeunesse rebelle. Et par ailleurs, c'est vrai que Bruce Lee, à la même époque, à Hong Kong, quand il ne fait pas du cinéma, quand il n'est pas cette star-là, bah, il passe son temps à se battre.
Voilà. C'est-à-dire qu'il fréquente un petit peu un milieu compliqué de gangsters, de mafias chinoises. C'est une jungle urbaine à l'époque Hong Kong, on a oublié ça, mais à l'époque c'est une ville difficile. Et Roger Hittier, un peu comme Mohamed Ali qui a croisé la boxe, Bruce Lee va croiser le Kung Fu. C'est ce qui va surtout l'empêcher de sombrer du côté obscur, on va dire. Mais qu'est-ce que ça représente le Kung Fu en Chine, Roger Hittier ?
Le Kung Fu, c'est une culture. Alors déjà, le terme Kung Fu a été popularisé par le fameux feuilleton Kung Fu incarné par David Carradine, hélas pas par Bruce Lee. Monsieur Benaliel pourra nous dire deux mots là-dessus tout à l'heure, je pense. Le Kung Fu, en fait, littéralement, c'est celui qui, par son travail, s'améliore. Et quand un Chinois vous dit « Hao Kung Fu », vous avez un bon Kung Fu. Colin, par exemple, à la radio, vous avez un très bon Kung Fu. C'est-à-dire, c'est celui qui maîtrise la technique et l'esprit de son art. Donc, c'est une sanction, en fait, d'un niveau d'excellence. Le Kung Fu, ça réunit à la fois l'esprit et le corps. Et dans la culture chinoise, bien sûr, les arts martiaux sont adjacents à cette culture, puisqu'on parlait de l'opéra, différents opéras. D'ailleurs, on dissout l'opéra de Pékin, mais il y a l'opéra de Canton. Bruce Lee a été aussi formé à cette école. Eh bien, les arts martiaux sont partie prenante, naturellement. Le chant, la danse et les arts martiaux, c'est vraiment empreint de la culture chinoise. Vous avez parlé tout à l'heure des triades. Eh bien, les sociétés initiatiques, parce que les triades, on considère que c'est mafieux, mais à la base, ce sont des sociétés initiatiques au même titre que la franc-maçonnerie d'ailleurs et le compagnonnage, eh bien, dans les triades, le récit fondateur de ces triades, c'est justement la légende des cinq ancêtres du temple de Shaolin du Sud.
Alors, il fréquente en effet beaucoup la délinquance, on va dire, hongkongaise. Ses parents sont quand même assez inquiets et décident de le renvoyer, entre guillemets, aux États-Unis, à Seattle, pour suivre un cursus universitaire. Il va d'ailleurs suivre des cours de philosophie avec un diplôme à l'université de Seattle. Mais il veut faire du cinéma, Bruce Lee. Ça l'intéresse, ça le passionne beaucoup. Cela dit, Bernard Benoniel, à l'époque, Hollywood ne veut pas d'Asiatiques dans les rôles d'Asiatiques. D'ailleurs, il est petit, il est chinois, on n'en veut pas de Bruce Lee. C'est des Blancs qui jouent les rôles des Asiatiques au cinéma.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est important, je pense, à comprendre. C'est que dans le cas de Bruce Lee, il a été acteur enfant avant d'être enfant du Kung-Fu. Mm-hmm. Et que dans la constitution, je dirais, de sa propre image, ça passait par une image de cinéma pour se constituer. Si bien que quand il arrive aux États-Unis en 59, il a évidemment l'idée d'ouvrir, ce qui ne va pas de soi déjà, mais l'idée d'ouvrir des écoles d'arts martiaux, parce que a priori, le Kung-Fu ne s'enseigne pas à des non-chinois, mais disons qu'il ouvre une première salle à Seattle, puis une autre à Oakland, et ensuite à Los Angeles. Mais en même temps que dans ces mêmes années 60, il, en quelque sorte, il enseigne son art, il est obsédé par l'idée de refaire image. Et pour refaire image, c'est Hollywood, c'est la télévision américaine, c'est le cinéma. Et là, il s'essaye et il se heurte à beaucoup, beaucoup de difficultés, qui sont celles, évidemment, de... En fait, Bruce Lee, c'est quelqu'un qui est né en 40, qui connaît entre 40 et 45 l'occupation japonaise à Hong Kong, qui renoue ensuite, enfant et adolescent, avec l'occupation britannique de la même Hong Kong, et qui ensuite vient aux États-Unis et se heurte à une forme, disons, de ségrégation ou de racisme.
Donc toujours une oppression.
Toujours une forme d'oppression, mm-hmm. d'empêchement, de frustration, d'impossibilité d'accéder à ses buts, et encore une fois, ce qui me semble être l'image qu'il se fait de lui-même.
Et dans son école de San Francisco, il a néanmoins des gens célèbres qui viennent prendre des cours de kung-fu. Il y a Steve McQueen, James Coburn et surtout un scénariste qu'on connaît parce qu'il a écrit La Tour Infernale, qui est donc Sterling Siliphant, qui va lui permettre de passer un essai devant la caméra, c'est en 64, 65, je ne sais plus.
65.
Vous l'avez vu l'un et l'autre, cette première vidéo, il est extraordinaire, Bruce Lee. Il a 25 ans, il est dans un petit costume cintré et là, l'essai qu'il passe devant la caméra est extraordinaire, Roger Hittier.
Oui, complètement. Tout le monde a vu ça, en tout cas sur le net.
On peut le voir sur YouTube. Hein,
ouais, tout à fait, tout à fait. Il était très jeune, effectivement, mais on sentait tout de suite qu'il avait du charisme. On l'a indiqué, c'est un acteur né, on l'oublie souvent. Il était acteur avant même d'être pratiquant d'arts martiaux. Et donc cette vidéo témoigne en fait de son niveau de kung-fu de l'époque, emprunt en fait de l'école Chinwu. L'école Chinwu, c'est une école célèbre en Chine qui a été créée en 1909 à Shanghai par un maître qui s'appelle Ou Wenxia et qui l'incarne en tout cas dans le fameux disciple Chen dans La Fureur de vaincre. Donc c'est pas sans conséquence, je dirais, cette admiration qu'il portait à ce maître qui a été le premier à avoir un regard moderne sur l'enseignement du wushu, donc du kung-fu. C'est les premiers cours de féminins qui ont été créés en 1920 exactement. Donc c'était assez exceptionnel, parce que c'était très patriarcal quand même, les arts martiaux chinois. Et Bruce Lee démontre en fait des formes qui sont issues de cette école. Et on voit effectivement, indépendamment des formes stylisé qu'il démontre, sa fameuse démonstration devant
un technicien
très assez âgé, voilà, qui s'appelle Charlie, Charlie, voilà. Un vieux monsieur.
Un peu paniqué d'ailleurs quand il voit les coups de pied et les coups de poing arriver au ras de son nez. Et Bruce Lee, avec son humour, il réajuste son costume parce que il voulait montrer bonne figure en même temps. C'était très intéressant de voir ça.
Un mot, Bernard, sur cette vidéo.
Oui, sur ce même essai, pour continuer à répondre à la question de tout à l'heure. Il faut savoir qu'au moment où il fait cet essai à la 20th Century Fox, il auditionne pour le rôle du fils de Charlie Chan. Donc ça dit bien quel type de rôle on destinait aux Chinois qui voulaient faire du cinéma. Et du fait de cet essai, il est remarqué par un producteur qui s'appelle William Dozier et qui va lui permettre d'accéder au rôle de Kato dans Le Frelon Vert, une série qui va commencer et qui va s'arrêter d'ailleurs au bout de 26 épisodes, mais qui va commencer l'année d'après. Et même dans Le Frelon Vert, en tout cas aux États-Unis, Bruce Lee a un rôle secondaire. Il a le rôle, c'est le serviteur du héros.
Il est masqué. On le voit même pas, en fait.
Voilà, quand il n'est pas masqué, il est chauffeur du héros. Quand il n'est pas chauffeur du héros, il est son domestique. Bref, il y a même une lettre qui existe où Bruce Lee écrit au producteur en disant « J'aimerais bien avoir dans le plan quelque chose à dire. Ça m'aiderait à me contenir ou à me situer par rapport aux autres personnages. » Donc, ça dit bien à quel point il était dans une situation... à la fois d'accès à une première image et en même temps qui ne le satisfait pas du tout.
Alors évidemment, il y a donc ce Frelon Vert, ça le lance, on va dire, un peu à Hollywood, mais Hollywood continue à se méfier de ce petit Chinois, on ne lui confie pas grand-chose de plus. Et donc il décide de retourner à Hong Kong pour faire du cinéma, et alors là, très vite finalement, en très peu de temps, en 2-3 films, en 2-3 ans, j'exagère un peu Bernard, mais il va devenir une véritable icône planétaire. Pourquoi ça marche aussi bien à ce moment-là, Bernard ?
Mais ça marche aussi bien parce que autant le Frelon Vert, par exemple, est un succès pendant une saison aux États-Unis, mais enfin dans un rôle où il est assez, si j'ose dire, cantonné.
C'est bien placé.
Autant quand il arrive à Hong Kong, il se rend compte que le Frelon Vert a été rebaptisé, que la série passe sur les chaînes hongkongaises et que ça s'appelle The Kato Show. C'est-à-dire que à Hong Kong, on a redonné en quelque sorte au Frelon Vert le nom du personnage
incarné par Bruce Lee.
Incarné par Bruce Lee. Et à partir de là, il se rend compte de sa popularité à Hong Kong et il se sert de Hong Kong comme en quelque sorte sa base d'opération. Et en même temps qu'il essaye de percer aux États-Unis, qu'il continue à faire une série, par exemple, il fait une série très intéressante avec le Sterling Siliphant dont vous avez parlé,
le scénariste,
qui s'appelle Long Street. Il fait un épisode pilote qui, à mon avis, ce qu'il a fait de mieux aux États-Unis dans ces années 60. Et en fait, il part à Hong Kong pour tourner son premier grand film dans la jungle thaïlandaise, s'appellera Big Boss. Et ce premier film, il se dit, bon, c'est un coup d'essai, mais lui, il mise tout sur Long Street. Et en même temps, il joue sur les deux tableaux.
Roger Ittier, Bruce Lee, il a finalement réussi grâce à un art martial, un art de la guerre. Mais pourtant, vous dites que c'est un art de la paix. Le kung-fu. Pour quelle raison c'est un art de la paix ?
Alors, je dirais que l'évolution des arts martiaux, et particulièrement les arts martiaux chinois, on dit souvent, il y a un proverbe chinois qui dit « Tous les arts martiaux sous le ciel viennent de Shaolin ». En fait, la Chine a été un berceau de la civilisation asiatique, comme l'a été la Grèce antique pour l'Europe et le bassin méditerranéen. La Chine a ceci de particulier, c'est que les arts martiaux n'étaient pas détenus par une caste, contrairement au Japon, avec les samouraïs par exemple, ou en Corée avec les Warang, tout le monde pouvait pratiquer des arts martiaux. Ce qui fait leur complexité, leur richesse et le territoire vaste de la Chine, 17 fois la France, je le rappelle. Donc le Kung Fu, ou plutôt le Wushu, le terme générique c'est Wushu, Wu c'est martial et Shu c'est l'art, donc l'art martial. Moi je le traduis de la façon suivante. Wu, ça veut dire l'art d'arrêter la lance. Mais je dirais que avant qu'il devienne Wushu, c'était du kung-fu régional, un kung-fu de combat. C'était l'art d'utiliser la lance. Puis après, à l'époque républicaine, à l'époque de Qinwu, l'école Qinwu, l'ère républicaine, eh bien c'était l'art d'arrêter la lance. Puis maintenant, nous sommes dans l'art d'enterrer la lance. C'est-à-dire que ce sont des arts de guerre qui sont passés par des arts de pacification et des arts qui tendent vers la paix, aux valeurs olympiques en clair.
Vous dites souvent qu'on peut résumer le kung-fu un peu sur la base de la devise républicaine. Vous dites que le kung-fu, ça peut être liberté, égalité, fraternité.
Tout à fait.
Pour quelle raison, Roger?
Alors, Alors déjà, je parlais de l'école Qinwu. L'école Qinwu s'est bâtie, je disais, pendant la vague des républicains en Chine, et donc très empreinte de la République française, sont inspirés là-dessus. Alors, la liberté, on cherche la liberté du corps et de l'esprit. Bruce Lee est un apôtre, je dirais, de cette liberté d'action et de cette liberté de penser, ce qui lui a vécu d'ailleurs des anecdotes un peu terribles. Tout à l'heure, M. Benoliel le rappelait, quand il a commencé à enseigner aux États-Unis pour gagner un peu d'argent, arrondir ses fins de mois en clair, et en même temps enseigner, je dirais, à des non-chinois. On raconte un duel qui a vraiment eu lieu entre un pratiquant de la communauté qui représentait la communauté afin de l'interdire quelque part d'enseigner son art. Donc Bruce Lee, lui, il a toujours été rebelle et montré que les arts martiaux étaient universels et que c'était pas, on pouvait pas mettre un drapeau derrière un art martial. Ça, c'est quelque chose qui l'a façonné et fasciné. Et donc il a continué envers et contre tous de développer le Li Jianfan Kung Fu. Alors c'est un peu égocentrique parce que Li Jianfan c'est son nom chinois, donc le Kung Fu de Bruce Lee. Puis ensuite aux États-Unis il a évolué vers le Li Jianfan Kickboxing, c'est-à-dire en clair l'espèce de kickboxing chinois. Et puis après il en a fait une synthèse qu'il a appelée Jeet Kune Do, le point qui intercepte. Donc c'est le fruit de son évolution et c'est quelque part ce que je viens de vous énumérer entre l'art d'utiliser la lance, de stopper la lance et de l'enterrer.
Absolument.
Salaud !
Je vais le descendre.
Attendez.
L'œil du tigre.
Regardez ce gros-là. Il va finir dans la sueur.
Philippe Collin.
Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.
Sur France Inter.
Quand arrive sur les écrans du monde entier Opération Dragon, film sorti en 1973, Bruce Lee a 33 ans. Ou plutôt, il aurait dû avoir 33 ans car il est mort quelques semaines avant la sortie du film. Bruce Lee est mort à Hong Kong alors qu'il tournait Le Jeu de la Mort.
Bruce Lee ne devait jamais terminer Le Jeu de la Mort. Le 20 juillet 1973, dans la soirée, c'est la mort au contraire qui emportait le petit dragon. La nouvelle éclata comme une bombe. Personne ne voulut y croire. Le lendemain pourtant, les manchettes noires des journaux le proclamaient en lettres de deuil. Bruce Lee était mort. Malheureusement, beaucoup de choses regrettables entourèrent les circonstances de cette mort. Était-ce une faute si impardonnable que de mourir dans le lit d'une actrice jeune et belle, Fallait-il que cela soit caché? On le cacha. Et c'est à partir de là que les légendes commencèrent à courir. Pour les uns, Bruce Lee avait été tué par des moines Shaolin qui ne lui pardonnaient pas d'avoir révélé le kung-fu aux étrangers. Pour les autres, c'était la mafia de Hong Kong ou un producteur jaloux. Pour d'autres encore, c'était la vibration qui tue ou les dieux chinois que Bruce avait offensés. Pour la presse, plus terre à terre, ce fut une histoire de drogue ou un gag publicitaire destiné à lancer son prochain film.
Que d'histoires autour de la mort de Bruce Lee depuis 40 ans. Ça fait partie de la légende, évidemment. Bernard Benoliel, en fait, on ne pouvait pas se résigner à la mort du petit dragon, tout simplement. Non ?
Ah oui, je pense que ça a été effectivement à Hong Kong et en Asie. D'ailleurs, les images de la cérémonie à Hong Kong existent et on voit des foules pleurer et on voit à quel point ça a été, comme vous disiez, il y a un avant, un après. Mais surtout, ça a développé quelque chose, alors dans le cinéma, de très singulier. C'est que, et je connais pas d'équivalent à cette échelle, la mort de Bruce Lee a suscité un genre cinématographique qu'on pourrait appeler le faux Bruce Lee. Et dans le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, je dirais peut-être une centaine, en tout cas plusieurs dizaines de films dans toute l'Asie, mais ailleurs, en Turquie, au Brésil, en Afrique du Sud. Des films se sont écrits, produits, sortis sur et avec des faux Bruce Lee. Bruce Lee, Bruce Lee avec un I, Bruce T, Bruce Ray, Brutti, enfin bref, il y a eu Brut qui avait aussi, enfin bref. Il y a eu tout comme ça, toute une ribambelle de sosies, enfin de sosies, disons de sosies apparentées, de plus ou moins ressemblants, et qui, ou parfois même c'était un seul argument publicitaire des producteurs, on mettait Bruce Lee dans le titre, et ça suscitait l'engouement. C'est à la fois évidemment un filon du cinéma commercial, et en même temps ça traduit bien à quel point on ne pouvait pas se faire à l'idée de la disparition de Bruce Lee, parce que Bruce Lee a vraiment incarné pour les Chinois de Hong Kong en particulier, une sorte de fierté retrouvée. Il a vraiment incarné le quand il entre dans le dojo de la Fureur de Vainque et qu'il déchire l'affiche le Chinois est l'homme malade de l'Asie, les gens se lèvent dans la salle. Donc il y a tout d'un coup, par rapport à l'oppression qu'on décrivait et ces régimes d'occupation successifs, le sentiment que la Chine tient enfin son champion.
Ça c'est important, Roger Hittier, parce qu'il faut bien avoir en tête que Bruce Lee c'est quasiment, je crois même, la première star non blanche du cinéma mondial. Il incarne aussi une ère post-coloniale, les années 70. La mort de Bruce Lee c'est aussi... le deuil des opprimés et des sans-grades. C'est-à-dire qu'il laisse orphelin tout un tiers-monde qui, du coup, se reconnaissait aussi, comme on se reconnaît dans Mohamed Ali. Mais Bruce Lee incarnait ça au niveau planétaire et au cinéma.
C'est clair. Bruce Lee, c'est un nom de marque. Mm-hmm. On l'a évoqué. Hein. C'est vraiment, je pense, dans l'histoire du cinéma, des contrefaçons aussi importantes n'ont pas de point commun.
Mais lui-même avait prévu le coup, parce qu'il avait dit « Un jour, mon nom sera aussi célèbre que Coca-Cola ».
Exactement. Et je dirais, on devient célèbre quand son nom propre devient un nom commun. Et Bruce Lee est un nom commun maintenant. C'est un nom de marque, comme je l'indiquais. Et en même temps, c'est vrai que il incarnait, c'était le premier héros véritablement non blanc dans le cinéma tout court et dans le cinéma d'action bien évidemment. Il a amené un genre nouveau, les Jackie Chan, les Jet Li sont dans son sillage naturellement. Jackie Chan était un de ses cascadeurs, c'est important aussi de le souligner. Et d'ailleurs, lorsque Jackie Chan, qui a une carrière plus que brillante, évoque Bruce Lee, il l'évoque toujours avec des termes très respectueux. Bruce Lee, c'était quelqu'un qui... En fait, il avait une chose qui était extraordinaire, c'est son charisme. C'était quelqu'un qui était beau, mais beau dans tous les sens du terme. Il le savait, en plus. Savait. Il s'est fabriqué un corps comme une machine de guerre, qui était son tableau, son œuvre, en fait. Et c'est en cela qu'il est assez exceptionnel.
Corps comme une machine de guerre. Bernard, vous expliquez dans votre livre qu'en effet, il s'est servi de son corps comme une arme, et c'est l'arme du pauvre.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Roger Hittier. C'est du body art d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à la fois, il se construit un corps glorieux, un corps... En fait, son ambition était presque de présenter un corps qui serait du jamais vu. Comme ça, au moins, il était sûr de faire image. Donc, lui-même a travaillé son corps, mais comme rarement une personne travaille son corps, c'est-à-dire qu'il l'a travaillé par partie, il l'a travaillé presque par morceaux, et presque, on pourrait dire que de film en film, il présente de nouveaux muscles, où il présente comme s'il se remembrait en permanence. Donc, et en même temps, c'est l'arme du pauvre, parce que c'est celui qui se bat à main nue, c'est celui qui se bat avec son corps. Et puis à ça, il ajoute, c'est en ça que Bruce Lee est une invention figurative permanente, à ça il ajoute par exemple le nunchaku, qu'on n'avait jamais vu et qui surgit littéralement avec lui et qui sidère non seulement ses adversaires dans le plan, mais les spectateurs aussi dans la salle.
C'est une arme, hein, vous savez, avec, reliée par une chaîne, voilà. Avec deux bâtons.
Une arme simple,
qui était à la fois, au départ, Bernard, allez-y, dites-le.
C'était une arme de paysan. Voilà, c'était une arme pour battre le riz. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une arme qui, je dirais, vient de la vie quotidienne. C'est une arme de tous les jours. C'est une arme que même celui qui n'a rien peut avoir. Voilà. Et donc, c'est à la fois un corps héroïque, c'est un corps spectaculaire, c'est un corps qui fait image, et en même temps, comme dirait l'autre, il y a toujours un retour du refoulé derrière tout ça, c'est en même temps un corps souffrant, c'est un corps qui, dans les films, n'en finit pas d'être griffé, lacéré, et c'est ce qui ajoute évidemment à la dimension héroïque, mais je suis persuadé qu'il y a, devant un tel corps, de la part du cinéaste qui le filme, comme de la part des spectateurs qui regardent, un désir d'élucidation. On voudrait savoir comment ça marche. On voudrait savoir ce qu'il y a à l'intérieur, comment fonctionne le mécanisme, comment on démonte une montre. Et ce goût presque exhibitionniste de Bruce Lee pour, je dirais, son intériorité, est une tentation presque analytique du cinéma d'aller y voir. Quels sont les organes? Est-ce qu'il a des organes comme nous? Est-ce qu'il est fait comme nous? Est-ce qu'il est possible que cet être presque hybride soit humain et ait un fonctionnement comme vous et moi.
Roger Hitchy, dans son livre, Bernard fait une autre analogie. Il compare Chaplin à Bruce Lee. Et il dit, Chaplin échappe à toutes les embûches grâce à la souplesse de son corps, à son corps élastique. Certes, Bruce Lee a un corps souple, mais aussi un corps dur. Quand on voit le corps que Bernard décrit, c'est un corps sec d'athlète, un corps dur. Est-ce que c'est ça le kung-fu? C'est le mélange de la souplesse et de la dureté, Roger Hitchy?
Tout à fait, c'est l'image du yin et du yang parfaite. Effectivement, dans les arts martiaux chinois, on a ce qu'on appelle les styles internes, donc le tai chi par exemple, qui est très pratiqué, et les styles plutôt externes, Shaolin, qui est un nom générique également. En fait, Bruce Lee a commencé la pratique des arts martiaux, malgré ce que certains peuvent croire, par le tai chi, parce que son père l'a initié au tai chi, il le pratiquait. Et puis ensuite, il a été voir ses oncles, qui étaient Yip Man et Xu Hongshang. Xu Hongshang était un maître de l'école Qinwu, encore une fois, et Yip Man, le fameux maître qui est évoqué dans tous les films qui sortent actuellement, avec Denis Yen, par exemple, qui a été... pas son maître directement, puisqu'il a été enseigné par un de ses meilleurs élèves qui s'appelait Wong Song Leung, qui l'a réellement instruit dans le domaine du Wing Chun. Mais ce qui est très intéressant en ayant analysé un peu sa vie et rencontré des maîtres qui ont vécu à sa période, eh bien c'est que il a souvent été décrié en fait dans la tradition, enfin par les maîtres traditionnels à son époque, je pense par une forme de jalousie. Il amenait un trop de réformes et de modernisme qui vraiment dérangeait. Et à sa mort, tout le monde s'est approprié une part de son héritage. Donc c'est assez étonnant et ce qui prouve bien sa forte notoriété.
Bernard Daniel ?
Oui, non, c'est Bruce Lee aussi choqué parce que c'était tout d'un coup du combat de rue. C'est-à-dire que certes, Bruce Lee philosophe, Bruce Lee en paix, Bruce Lee en tolérance. Mais en même temps, ce qui fascinait les spectateurs, c'était sa rage. C'était à quel point il était déchaîné littéralement. Et on avait d'une certaine manière jamais vu au cinéma... quelque chose qui relevait du combat de rue. Ça impressionnait beaucoup. Et puisque ce que on disait à l'instant, dureté et souplesse, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des scènes où il occupe le centre du plan et personne ne peut l'en déraciner. Il y a une scène dans La Fureur du Dragon où un contremaître d'usine essaye de le bouger, donc il le pousse. L'autre ne bouge pas, mais le contremaître s'arrête parce qu'il se dit mais j'ai exercé une pression ou pas? Et tellement il est resté absolument impossible à bouger. Et en revanche, l'autre dimension, c'est effectivement la souplesse et la façon qu'il avait chorégraphiquement, de tourner autour de l'adversaire jusqu'à ce que, comme les murs de Jéricho, l'adversaire finisse par tomber.
Et son attitude également, c'est tout à fait exact. Indépendamment, je dirais, des techniques martiales proprement dit, et du panel aussi riche qu'il pouvait présenter, un seul mouvement de lui montrait en fait toute son authenticité. Quand on voit par exemple le jeu de la mort, film inachevé, qui aurait été peut-être l'apothéose de son
art,
eh bien quand on voit les scènes qui ont survécu et qu'on le voit arborer ce survêtement jaune et monter l'escalier avec son petit fouet comme ça, il ne fait rien, simplement sa présence. Tout est dit, quoi. On voit vraiment quelque chose d'extraordinaire.
On va écouter maintenant un texte de Bernard Marie Coltès, homme de théâtre évidemment, un texte lu sur France Culture en 2005, et évidemment, ce soir, ça parle de Bruce Lee.
Une des plus grandes souffrances que j'ai éprouvées, une de celles en tous les cas que je veux bien garder en mémoire, c'est lorsque j'ai vu pour la première fois Bruce Lee refuser de se battre contre les voyous qui l'agressent dans Big Boss. À cause de je ne sais quel serment qu'il a fait, à cause d'une foutue médaille à son cou, il refuse, pendant un tiers du film, de se défendre. Il se laisse humilier, sans rien faire, alors qu'il est le plus fort. Bien sûr, à la fin, on est vengé. À la fin, il met tout le monde KO. Mais ce n'est pas parce qu'à la fin, on éprouve du plaisir que la souffrance du début n'a pas existé. Quoi qu'il en soit, je suis allée revoir le film en me disant « Maintenant que tu sais qu'à la fin, il met tout le monde KO, tu ne vas plus souffrir. Tu vas même pouvoir ricaner et te frotter les mains pendant tout le temps où il se fait casser la gueule. » Eh bien non, pas du tout. Chaque fois que je revois Big Boss, je sors épuisé de colère et de révolte à cause de cette foutue médaille et de ce foutu serment. Bernard-Marie Coltès, Jeet Kune Do.
Bernard Benoniel, après avoir écouté cet extrait de Bernard-Marie Coltès, on s'aperçoit que c'est assez étrange de suivre les aventures de Bruce Lee. C'est l'ouverture de réflexion incroyable, l'art de Bruce Lee.
Bah, c'est un corps tellement exceptionnel ou tellement métamorphique qu'effectivement on se dit il y a quelque chose à comprendre, à analyser. Je pense qu'il a été à la fois le comme on l'a dit, le creuset de certaines passions. Tout d'un coup, un Chinois ou un émigré de Barbès s'est reconnu ou s'est trouvé enfin représenté. Enfin, les sans-voix ou les sans-grades avaient une voix. Enfin, ceux qui étaient obligés de vivre dans l'ombre avaient une incarnation à l'écran. Bref, ça a été, de ce point de vue-là, effectivement, un immense retour de fierté. Ça pouvait aller, je sais pas, moi, du cadre complexé qui avait des problèmes avec sa hiérarchie, à l'enfant qui cherchait comment il allait pouvoir faire avec sa propre colère ou sa force. Et puis, effectivement, comme je disais, l'émigré de Barbès. Donc, c'est devenu une figure syncrétique. Mais je crois beaucoup du fait de sa, comme je disais, de sa rage. Parce qu'il ne masquait pas d'une certaine manière. Même si, ayant l'ambition de faire carrière aux États-Unis, on voit comment les films ondulent entre expression d'une rage qu'on pourrait même plus représenter aujourd'hui, et puis en même temps un petit ton de comédie dans certains films. Donc c'est cet entre-deux et en même temps tout ça se joue en deux ans, hein, puisque on a dit il y a quatre films, 71-73, Le jeu de la mort est un film non terminé, effectivement passionnant comme dit Rogier dans les parties tournées par Bruce Lee, et qui est un film, c'est le film le plus con et le plus conceptuel qu'on puisse imaginer dans l'histoire du cinéma, parce que ça fait partie des faux Bruce Lee, puisque les producteurs de se sont retrouvés avec 40 minutes, mais c'est à la fois
et
de l'or.
On a fabriqué un film.
Et voilà, ils ne pouvaient rien en faire. Donc ils ont inventé une fiction pour utiliser ces 40 minutes et le sortir comme un long métrage en 78. Et il faut voir le film à la fois pour sa part de fiction qui est aberrante et sa part documentaire qui sont les combats de Bruce Lee où là on le voit exprimer ce qu'est d'une certaine manière pour lui le Jeet Kune Do. C'est-à-dire presque la somme ou la synthèse de chaque art qui occupe littéralement et symboliquement chaque étage de cette pacode.
Roger Itier, je le disais en introduction, le Kung Fu a longtemps été victime de Mao, en tout cas des années Mao, parce qu'il incarnait un système d'avant, donc c'était forcément compliqué le Kung Fu sous Mao, et puis ensuite Bruce Lee est arrivé, il a mis en avant cet art martial chinois. Sa mort a à la fois fait exploser l'intérêt autour de ce sport et cet art. Mais aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est. On a évoqué peut-être une inscription aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, mais finalement, c'est le Japon, donc on comprend qu'ils n'ont pas récupéré cet art chinois. On en est où du sport, en fait, du Kung-Fu? Est-ce qu'un jour, on aura le Kung-Fu aux Jeux Olympiques, par exemple?
Alors, le Kung-Fu, c'est un art de tradition. Comme je l'ai dit, son évolution tend vers l'olympisme. Donc, déjà, le président de la Fédération internationale de Wushu est vice-président du CIO. Donc, c'est pas rien.
Non.
Donc, il a fait le déplacement en France, d'ailleurs, pour aider le Wushu français à se structurer. Quand on sait que Paris est ville candidate, on
voit les enjeux politiques et diplomatiques.
Voilà. Indépendamment de cela, dans les années maoïstes, effectivement, la Chine s'est repliée sur elle-même, mais on oublie quand même qu'avant de se replier, c'est parce que les Occidentaux l'avaient pas mal pillée. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle s'est aussi bien repliée sur elle-même. Mais le Wushu a perduré sous une forme plus sportive. Le Wushu sport existe naturellement, c'est un sport qui est très télégénique, qui comporte deux types d'épreuves, ce qu'on appelle les Taolu, donc c'est des séries chorégraphiques techniques, avec armes ou à main nue, et enfin une épreuve de combat qu'on appelle le Sanda, c'est du combat libre. On utilise les pieds, les poings, les saisies, les projections, comme Bruce Lee l'a démontré dans les premières scènes d'Opération Dragon. Donc, dans la pratique des arts martiaux chinois, l'étendue en fait des styles et des épreuves sont assez considérables. Ce qui complexifie sa lisibilité pour le grand public. Mais c'est vraiment un art qui a complètement sa place dans l'olympisme. Et je dirais que c'est un art qui est un des plus pratiqués au monde, ne serait-ce que par le tai chi.
En tous les cas, merci beaucoup à vous deux pour en savoir plus. Revoyez tous les films de Bruce Lee. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est toujours un vrai plaisir. Et puis lisez ce livre passionnant de Bernard Benoliel, Opération Dragon, Bruce Lee, l'homme cinéma. C'était sorti en 2010 ou 2011, mais ça se trouve, c'est un livre passionnant. Et puis il y a aussi le grand livre du Kung-Fu de Roger Hittier, c'est aux éditions De Vecchi. Merci beaucoup à vous deux, ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin. Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on cette semaine dans ton Give Me Five?
Bernard, Roger, Colin, connaissez-vous Kazuyoshi Miwa? Non.
C'est un japonais.
Bien. Et connaissez-vous Olivier Hatton?
Non.
Bon, bah alors vous allez apprendre plein de trucs, hein, ça va être super. On y va. Dimanche dernier, Kazuyoshi Miwa est devenu le plus vieux footballeur japonais professionnel à marquer un but. C'était donc avec le Yokohama FC, un club de deuxième division japonaise. Et dimanche dernier, Kazuyoshi Miwa avait précisément 50 ans et 14 jours, ce qui est énorme. Donc déjà rien que ça, ça mérite qu'on retienne son nom. Mais surtout, évidemment. Mais surtout, celui qu'on appelle au Japon King Kazu, c'est une méga star parce qu'en fait, c'est lui qui a inspiré le personnage d'Olivier Hatton. Olivier Hatton, qui est le héros de la série du dessin animé Olive et Tom. Voilà.
Eh oui.
Et l'histoire de King Kazu est géniale. Donc, comme Olivier Hatton, forcément le héros d'Olive et Tom, vous avez suivi, King Kazu est né à Shizuoka, une petite ville japonaise au sud du mont Fuji. À 15 ans, Le jeune garçon part avec son père au Brésil. Pourquoi ? Parce que son père est un mafieux, proche des Yakuza, qui décide d'aller en fuite et que le petit Kazuyoshi lui rêve d'apprendre le jogo bonito, le foot brésilien. Donc ils arrivent là-bas, le petit garçon est guide touristique, vendeur ambulant, puis il connaît en fait ses premiers contrats pro avec des clubs brésiliens parce qu'il est plutôt bon. Et puis petit à petit, il devient le premier joueur japonais à jouer en Serie A, la Ligue 1 italienne. Et il sera enfin un des rares joueurs de foot vraiment à pouvoir dire qu'il a été professionnel sur 4 continents. Donc voilà, vous voyez un petit peu qui est ce Kazuyoshi Miwa. Puis en décidant de rentrer au Japon enfin pour promouvoir le foot à la fin de sa carrière, comme c'est un mec comme ça, il se marie avec la plus belle actrice japonaise, il est un peu bling bling, et là vraiment, King Kazu devient définitivement une star avec la série Olive et Tom. Donc Takahashi, le créateur de Captain Tsubasa, ça c'est le vrai nom comme ça vous le saurez, hein, d'Olive et Tom à base, Takahashi a annoncé enfin qu'il allait avoir une suite.
Et oui.
Voilà, en 2018 de dessin animé. Et Kazuyoshi Miwa, King Kazu, lui, a dit qu'il jouerait encore. Donc c'est promis, la légende de King Kazu n'est pas terminée. Bon, rien qui vous étonne, Colin, tu me connais.
Oui, je te connais.
J'ai pas passé la BO d'Olive et Tom. Oui. Vas-y, Marco.
Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Car il faut battre le goal.
Voilà. On va la voir dans la tête toute la soirée,
j'adore.
Joy.
Super.
Quoi d'autre ce soir?
Mais non, mais comme je suis sympa, je vais vous l'enlever de la tête.
Ah.
Grâce à mes chouchous marseillais, les Bad Boys de Marseille.
Ayam, les doyens du rap français.
Exactement. Ayam oui. A sorti un nouvel album début mars, donc c'est un album super, qui s'appelle Révolution. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un titre, enfin d'un clip, Grand rêve, grande boîte.
À tous ceux qui juraient que le rap était notre passade. Hello, c'est moi, bang, ho, la rafale. Je garde encore mes délires d'ado. 30 ans après, aucune aiguille ne pique ma peau. Sans courte échelle pour le nirvana, on y va par nos propres moyens. Et tant pis si je chute en chemin. Chaque jour est une grande date, on met des grands rêves dans les grandes boîtes.
Voilà, cette chanson, en fait, c'est l'histoire vraie d'Alejandra Gutiérrez, une jeune sportive dont le rêve était de participer aux Jeux Olympiques, mais qui, à cause d'un accident, a dû revoir son destin. Bon, alors, je ne vous raconte pas tout, vous irez voir. Le clip est vraiment sublime, c'est comme un petit film en noir et blanc. On voit les membres d'IAM se faire coach pour aider Alejandra, ils l'encouragent. Puis il y a aussi le nageur Frédéric Bousquet. Donc c'est jamais désagréable. Voilà, donc IAM est toujours là, c'est toujours aussi ouf, et je voulais vous le dire. Et puis d'ailleurs, si vous aimez IAM, juste après notre œil du tic, je vous conseille de basculer sur Arte pour regarder Personne ne bouge à 19h05. C'est une émission géniale, produite par des gens géniaux sur une chaîne géniale. Et ce soir, il y a un sujet génial de Damien Cabrespin sur IAM. Hein, Colin ?
C'est de la belle autopromo, oh, ça. Merci beaucoup, Joy, merci beaucoup. 19h05, Personne ne bouge sur Arte.
Ah, bah tu vois, t'es d'accord.
Et alors, sinon des nouvelles d'un des plus grands footballeurs du XXe siècle, je crois.
Olivier Hatton, donc. Hein.
Oui, non, pas vrai. Non, pas Olivier
Hatton. Des nouvelles de Diego Armando Maradona. Oui, j'en ai.
D'accord.
Et Diego va bien, je suis ravie. Diego était en Corée du Sud cette semaine pour jouer un match de charité. Eh bien, 30 ans après le Mondial 86 et le match Argentine-Angleterre, Diego a retenté pour la première fois sa main de Dieu.
Et oui.
Voilà. Donc, vous pouvez voir les images, hein, ces petits ballons qui lui arrivent là devant le but, le gardien qui sort et Diego qui tend la main. Mais la main droite et pas la gauche comme à l'époque. Diego rate le but et se prend un carton jaune. Parfois, c'est dur de vieillir.
Oui, mais l'image est très drôle. Il faut aller voir sur YouTube, c'est très très drôle.
C'est rigolo.
Tu voulais aussi nous parler d'un papier de l'Équipe Magazine, je crois.
Oui, pour poursuivre ma chronique spéciale Quadra ou plus, je vous conseille la lecture d'une enquête de l'Équipe Magazine parue ce week-end avec des héros qui, eux, vieillissent vraiment très bien. Donc c'est Rémi Fier, hein, le journaliste de l'Équipe Mag, qui a rencontré une dizaine de champions, connus ou anonymes, qui, à plus de 60 ans, continuent à pratiquer leur sport. Donc vous verrez un Michel Vossier, qui est culturiste marseillais tout tatoué de 62 ans, Guy Perilla, le champion de ski qu'on connaît, Yvette Barreda, 86 ans, gymnaste amateur, Kiki Caron, que j'adore, hein, Kiki, toujours aussi cash, aussi marrante. Voilà, les photos de ces athlètes sont magnifiques, leurs témoignages sont précieux, longue vie à eux.
C'est vrai que les photos sont sublimes. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel de la semaine.
Eh bien, c'est un livre que vous trouverez en librairie jeudi. Mais comme moi, j'ai grave de la chance, je l'ai déjà reçu en service de presse, et je peux vous dire en avant-première qu'il est super. Ça s'appelle « Sur le Giro 1949 ».
Sur le Giro, ouais, 1949.
G-I-R-O, oui, le nom de toute l'Italie. C'est écrit par Dino Buzzati, donc oui, le Dino Buzzati du K, et c'est publié aux éditions Solonly. En fait, Dino Buzzati, c'était plutôt un bourgeois, hein, le sport qu'il aimait, lui, c'était le golf. Alors quand le journal Corriere della Sera l'envoie sur le Tour d'Italie en 1949, on ne peut pas dire que Buzzati soit très calé. Et c'est là justement que c'est génial. Et il faut avoir en tête la phrase de Tristan Bernard, hein, sur le Tour de France, qui disait « Quand le Tour passe, la France est sur le pas de la porte ». Parce que là, c'est pareil, mais en Italie. Donc il faut lire Buzzati raconter, lui qui n'est pas sportif, hein, pas cycliste, ce qu'il imagine être la fatigue d'un Coppi ou d'un Bartali en ascension de course. Il faut le lire raconter la distribution de bonbons dans un village. Voilà, ce qui intéresse Buzzati, c'est l'homme, c'est l'Italie et l'histoire dans le sport ou grâce au sport. C'est vraiment super. Et puis ce livre est tellement bien qu'on lui consacrera une émission entière, hein, c'est ça, Colin ?
C'est vrai, absolument.
Donc ce sera le dimanche 2 avril avec Eric Fotorino. Donc ça vous laisse le temps de lire ce livre d'ici là.
Exactement, lisez Sur le Giro 1949.
Ouais,
on consacrera l'émission entièrement le dimanche 2 avril à ce Tour d'Italie, donc en fait le centenaire cette année d'ailleurs. Merci beaucoup, Joy.
Ah, bah de rien.
À la semaine prochaine.
Bye.
Salut, merci à Marco Mutel aux manettes ce soir. Assisté de Nicolas Slimani, merci à lui, merci à toute l'équipe de l'œil du tigre, Arnaud Jamin et Loïc Saulnier pour les réseaux sociaux. Dimanche prochain, on consacrera l'émission aux cheerleaders, autrement dit aux pom-pom girls, une activité sportive assez particulière mais passionnante, pratiquée par des hommes à l'origine. Après le journal d'Yves Decamp, vous aurez tous les résultats sportifs du week-end dans le journal des sports de Michel Gourdin. Passez une excellente soirée, à dimanche prochain, salut et fraternité.